Comme chaque mercredi à 21h, voici Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Un bonheur ce soir parce que nous accueillons un membre de l'Académie Goncourt, élu en 1995. Il en est actuellement le secrétaire général. Il a reçu le prix Goncourt en 1977 pour un roman intitulé John l'Enfer. Il est aussi scénariste et travaille pour la télévision en adaptant notamment de grandes œuvres littéraires comme Le Comte de Monte Cristo qui lui a valu un 7 d'or ou Les Misérables. Il s'agit de Didier Decoing. Didier Decoing est né à Neuilly en 1945 et il est le fils du cinéaste Henri Decoing. Il a été journaliste à France Soir, au Figaro et critique cinéma à VSD. Sa première œuvre est une œuvre de théâtre, parue en 1963 et qui avait pour titre « Soyez un ange ». Il se tourne ensuite vers le roman et à l'âge de 32 ans, il est l'auteur de 7 romans lorsqu'il reçoit le prestigieux prix Goncourt pour un roman paru au Seuil et qui s'intitule « John l'Enfer », l'histoire d'un indien Cheyenne, laveur de carreaux des gratte-ciels de New York et qui a le cœur sur la main. Citons quelques-uns des titres de ses romans, « L'enfant de la mer de Chine » en 1981, « Les trois vies de Bab Ozouf » en 1983, « Meurtre à l'anglaise »,« La femme de chambre du Titanic » ou encore « Est-ce ainsi que les femmes meurent » paru en 2009. Ce soir, nous allons ensemble tourner les pages de son dernier roman, « Une anglaise à bicyclette » paru aux éditions Stock. Il s'agit d'un entretien enregistré le mois dernier alors que l'académicien Goncourt Didier Decoing était de passage à Dijon, invité par le club des écrivains de Bourgogne. Didier Decoing, bonsoir.
Bonsoir.
Vous savez que je suis particulièrement heureux de vous rencontrer et de vous accueillir au cœur de l'émission littéraire que j'anime chaque mercredi sur l'antenne de Radion, émission qui s'intitule Wagon Livre. Vous voyez, on est dans un mode de transport, wagon, le train, et vous nous emmenez aux côtés d'une jeune fille à bicyclette en quelque sorte, avec ce roman Une anglaise à bicyclette. Je résume très médiocrement, parce que l'histoire est bien plus intéressante que cela.
Mais elle a pris beaucoup de wagons-lits, sinon oui. Des wagons-livres.
Certes, certes. Alors, Didier Decoing, dans « Avec vue sur la mer », j'aimerais que vous expliquiez à nos auditrices et auditeurs la symbolique du chiffre 77, parce que votre papa est le cinéaste Henri Decoing, et pendant la Première Guerre mondiale, il est au sein de l'escadrille Guynemer. Et il, au cours d'un combat, on va dire, il est mitraillé et il relèvera 77 impacts. Et ce nombre, 77, comme diraient nos voisins et amis suisses, est un nombre symbolique au cœur de votre œuvre et de votre vie.
De ma vie, oui. Il s'est fait descendre par la flaque allemande. Il est arrivé à se cracher dans les lignes françaises, mais vraiment, vraiment limite. Et en descendant de ce qui restait de son avion, qui était à l'époque des machins en bois, en ficelle, en toile, ou dans les dents, il a compté 76 impacts dans l'avion, plus un qu'il en avait un. Lui en avait un dans le dos, ce qui faisait 77. Et c'était tellement miraculeux qu'il s'en soit sorti comme ça, Il m'a dit à moi, dès que j'étais en état de comprendre ce qu'on me disait, que 77 serait le chiffre de ma vie. Et de fait, en 1977, je me suis marié, j'ai eu le prix Goncourt, mon épouse et moi, nous avons mis en marche notre premier bébé, ça a été vraiment l'année la plus belle de ma vie. J'attends avec impatience 2077. Pourquoi vous riez? Pourquoi j'y arriverai pas? Moi non plus.
Parlons, si vous le voulez bien, de votre dernier roman paru chez Stock et qui a pour titre « Une anglaise à bicyclette ». Alors, nous revoilà, en tout cas au tout début de ce roman, nous revoilà à nouveau aux États-Unis. Et votre amour de l'Amérique a toujours été très fort, notamment au tout début de vos écrits.
Oui, parce que moi j'ai baigné dans l'univers américain, à la fois parce qu'ayant le père cinéaste que vous avez signalé, j'ai vu beaucoup de films américains qui étaient déjà à l'époque le cinéma par excellence, que je me suis plongé dans les bandes dessinées. Ça a l'air bébête, mais c'est déjà aussi une image américaine, sans Mickey, Dingo, etc. Que j'ai une tante américaine et que voilà, moi, j'ai été baigné par cet univers-là. Et dès que j'ai commencé à écrire, ça a été ma toile de fond, j'allais dire presque instinctive, parce que c'était mon exotisme à moi. Écrire, je ne sais pas écrire sur ce que j'ai sous le nez. Je n'ai pas écrit sur Paris, qui est ma ville, que j'aime, que je trouve magnifique. Il faut toujours que j'ai un décalage entre le stylo et ce que je vois, et ce que je décris. Alors l'Amérique, c'était mon lointain. Donc c'était formidable. Et là, j'ai eu bonheur à y revenir. Mais je suis plus critique aujourd'hui. Car ce livre-là s'ouvre sur un massacre qui n'est pas à l'honneur des États-Unis d'Amérique, qui est le fameux pour moi en tout cas, parce que je le connaissais, le massacre de Wounded Knee, où les tuniques bleues, les soldats américains, ont carrément haché à la mitrailleuse lourde des femmes, des enfants indiens, Sioux Lakota, qui n'avaient rien fait de mal. Et c'est un massacre effroyable.
Nous sommes à l'extrême fin du 19e siècle, 1890. Ouais,
l'année de naissance de mon père, d'ailleurs.
Et alors, le roman commence donc par ce massacre. Effectivement, on est dans le thème de la mort. La mort est un fil conducteur.
Oui.
Parce que le photographe, le héros, s'intéresse aussi à la mort comme sujet photographique.
Oui, il s'intéresse au vieux visage ridé,
voilà.
à ce que la nature, cette façon qu'a la nature de dégrader ce qu'elle a fait de plus beau, de gâcher la beauté. Mais cela dit, c'est une comédie quand même, ce livre. Mais je voulais, comme vous savez, il y a un principe qu'on m'avait appris, c'est que il y a rien de pire que de faire un film ou un livre ou ce que vous voulez qui commence dans le sourire par la comédie qui se termine dans la tragédie. Les gens sont furieux qu'on leur fasse ce coup-là, parce que c'est ce que la vie leur fait tous les jours. Et là, j'ai voulu faire le contraire, c'est-à-dire commencer dans la tragédie, dans le drame, dans l'épouvante, pour finir, enfin en tout cas pour avancer dans le sourire et la féerie.
Qu'on aimait tant. bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
Radion, au cœur de la Bourgogne, 95.
Évidemment, c'était France Gall sur votre radio locale. Une Anglaise à bicyclette, tel est le titre du dernier roman de Didier Decoing qui est avec nous ce soir dans Wagon Livre, votre magazine littéraire, chaque mercredi à partir de 21h. Le début du roman, une petite enfant Sioux de 3-4 ans qui en langue Sioux s'appelle Iaoui. C'est cela?
Jeune fille qui rit. Ouais. Ça veut dire jeune fille qui rit.
Et Iaoui est recueilli par une femme qui la confie à des Américains qui vont donc recueillir les rescapés de cette tuerie. Et c'est là qu'arrive le personnage principal qui s'appelle donc Flannery. J'ai oublié son prénom. Jason.
Jason Flannery.
Et Jason se voit confier cette petite fille, puisqu'il est photographe britannique, et on lui demande d'aller déposer ce colis encombrant.
Très encombrant.
Très encombrant, parce qu'elle est merdeuse, elle est sale.
Personne n'a jamais changé, je veux dire, c'est une pauvre gamine. Vous dites 3-4 ans, elle a même, à mon avis, elle doit avoir moins que ça, elle est vraiment bébéiforme. Et on est, alors, il faut bien voir où est le Dakota du Sud, c'est plus vers la côte ouest que vers la côte est. On est loin de New York. Et il va falloir, pour entrer en Angleterre, parce qu'il est photographe anglais, qui retraverse l'Amérique et qui passe par New York d'où partira son paquebot. Donc on lui dit, écoutez, si ça vous ennuie pas, si ça vous ennuie pas, on dit, vous prenez cette gamine, puis vous la déposerez dans un orphelinat à New York. À l'époque, il y avait tellement d'enfants sauvages, entre guillemets, des enfants, des homeless qui étaient dans les rues de New York, les orphelinats pullulaient dans la ville. Donc lui, ramenez-la, et puis voilà. Et donc il va voyager pendant, en wagon-lit et en wagon normal, pendant plusieurs jours et nuits avec cette petite fille avec laquelle il ne peut pas communiquer. Il ne parle pas la même langue. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Et c'est vraiment, j'aime bien que vous employiez le mot colis, parce que c'est un colis. Et puis il est supposé la déposer dans un orphelinat. Il la dépose dans un orphelinat.
Il doit même donner une petite obole.
Oui, une petite obole, ça se fait, puisque les sœurs vont garder ce bébé. Et puis, il va prendre son paquebot. Et c'était une époque où il y a eu une extraordinaire tempête de neige et une glaciation sur New York. Et le paquebot pour l'Angleterre ne peut pas quitter l'East River. Il est coincé par les glaces. Et Jason Flannery a le temps de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai laissé cette gamine toute. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je suis un salaud.
Mais on est presque au bord des larmes quand même, oui. Quand il dépose cet enfant et qu'il part sans lui donner un baiser, parce que c'est bien là qu'est le remords.
Oui.
C'est que lui revient tout d'un coup la mort de sa femme. Il se dit, mais est-ce que j'ai embrassé le front de ma femme avant?
Oui, il est veuf, effectivement.
Il est veuf, il ne croit plus en Dieu. Non. Et tout d'un coup, il se dit, mais est-ce que j'ai embrassé ma femme avant qu'elle ne meure? Et tout d'un coup, horreur, il se dit, est-ce que j'ai embrassé seulement cette petite que j'ai confiée à un orphelinat de bonne sœur?
Donc il va aller la chercher.
Et il retourne donc la chercher.
Il va la voler, entre guillemets, parce que les sœurs ne veulent pas la lui rendre, ça ne se fait pas. Parce qu'ils disent, écoutez, monsieur, c'est beaucoup trop simple, on va faire une course, on dépose la gosse à l'orphelinat, puis on vient la chercher 2 heures après. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il va la kidnapper, et puis l'emmener avec lui. Et alors voilà, ils sont partis sur le paquebot, ils vont traverser l'Atlantique, avec cette petite fille qui ne parle toujours pas, qui est un peu moins merdeuse parce qu'on l'a nettoyée entre-temps. Mais il n'a pas eu d'enfant, lui, il est des enfants. J'ai adoré avoir, j'ai eu 3 garçons, j'ai adoré ça parce que on est vraiment comme la poule qui a trouvé un couteau, on ne sait pas quoi faire avec les bébés, nous, enfin moi en tout cas. Et en même temps, j'adorais les tripoter, leur donner le bain, changer les couches, etc. Mais j'ai l'impression d'être extraordinairement pataud, d'être très maladroit, et je m'attendrissais moi-même sur moi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un peu ça qui fait Jason avec cette gaminette. Et puis il va l'emmener dans son village anglais. Mais là, le problème, c'est quand il arrive en Angleterre, comme il n'a pas d'enfant, les gens vont poser des questions.
Et alors, elle n'est pas blonde, cette petite fille. Ça ne plaît pas trop. Elle est un peu basanée. Elle a le teint très hâlé.
Elle est cuivrée. Elle est cuivrée. Elle a les cheveux noirs et comment on dit, lisses, secs. Enfin, vous voyez, elle est très, très jolie, mais elle n'a rien du tout d'une Anglaise. Et alors, une espèce parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'Irlandais qui, à cause de la maladie de la pomme de terre, émigraient aux États-Unis. Donc, Jason, un peu pris de court, dit « Mais c'est une petite Irlandaise que ses parents m'ont confiée dans les rues de New York. » Il faut être gonflé pour faire passer une petite Sioux Lakota, donc cuivrée comme nous disons, pour une Irlandaise à tache de rousseur, blondasse, etc. Mais c'est pas mal, parce que c'est comme ça qu'il va arriver à... Alors ça, c'est ça qui m'intéressait aussi dans le livre. Est-ce qu'on peut intégrer quelqu'un qui est non seulement d'une autre nationalité, mais d'une autre culture, totalement différente, dans un truc aussi rigide que l'Angleterre victorienne, enfin, la fin victorienne? Oui.
Ben c'est aussi une réflexion sur le regard que l'on peut poser sur un étranger.
Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, quand je regarde... c'est vrai, je ne le dis pas du tout par modestie mal placée, mais je crois que j'écris beaucoup trop de livres. Il y en a certains qui doivent être inutiles. Mais presque tous font référence à ça, c'est-à-dire à des personnes qu'on déplace. L'exil est quelque chose qui me touche beaucoup, sans comprendre, sans que je sache pourquoi, parce que j'ai jamais été exilé. J'ai jamais été même en danger d'être exilé. J'ai vécu une enfance dans un cocon, bon. Mais ça me touche beaucoup, les gens qu'on arrache à leur terre. Je suis incapable de déplanter une touffe de chien dent. Ma femme, qui a les doigts verts et qui jardine très bien, arrache des trucs. Mais elle sait que ça me met dans des états seconds.
Ah bon ?
Je ne supporte pas qu'on déplante. Et donc, cette petite fille qui est déplantée m'intéressait comme m'intéressait dans le roman que j'ai écrit en 70, enfin, qui est sorti en 77, qui est le Goncourt de John L'Enfer. C'est aussi des gens déplantés.
Oui, parce
transplantés.
Que John L'Enfer, c'est un Cheyenne.
C'est un Cheyenne.
Simplement, on exploite ses talents, puisqu'en fait, il n'a pas peur, il n'a aucun vertige, puisqu'il est laveur de carreaux sur les immenses façades des gratte-ciels.
Comme une araignée sur les gratte-ciels. Lui est une personne déplacée. La petite jeune fille sociologue urbaine avec laquelle il va avoir une love affair, elle a un problème de vue, elle a un bandeau sur les yeux, pour l'instant, elle n'y voit rien du tout. On est aussi, quand on est un voyant et qu'on tombe dans la cécité brusquement, on est une personne déplacée, c'est une personne exilée du regard.
On change d'univers.
Et le troisième personnage, Ashton Misha, qui est un officier de marine, qui est polonais, est complètement décadré aussi dans ce monde-là. Mais j'ai la passion des gens, enfin la passion et la compassion pour les gens qu'on déplace.
En voyant naître cet enfant, je voyais du fin fond des siècles tous mes ancêtres, tous mes parents. Dans ce petit corps naître, je revoyais leur maison. Aujourd'hui en démolition, et les buildings essayaient de nous la faire oublier. Par quel hasard ce bel enfant a survécu à toute guerre, guerre de Troie, guerre de 100 ans, échauffour et meurtrière. Par quelle fissure du temps s'est-il glissé jusque maintenant, défiant la mort, le fer, le vent, Hérode et les tueurs d'enfants. Que le vent souffle d'Afrique, qu'il souffle du nouveau monde, ce son fusil qui crépite, bazooka pampan qui gronde, échapperons-nous, dites-moi, à cette grande razzia. Mon enfant, viens dans mes bras, fais dodo tout contre moi. La vérité s'étiole à la croisée de cette route. Il y a le nouveau dieu pétrole. On sacrifie sur l'autel des petits enfants à l'appel. Le monde fait harakiri. Babel fait florès aujourd'hui. Le trac du monde se détraque, je ne sais quelle partie prendre face à la grande mitraque d'un monde malade à pierre fendre. J'essaie vite en cachette avant qu'on ne coupe l'herbette de bâtir une maison sur le sable de mes chansons.
Elle a été découverte par le chanteur belge Julos Bocarn. Elle s'appelle Barbara d'Alcantara et elle nous a interprété En voyant naître cet enfant. Retrouvons notre invité ce soir au micro de Radion, Didier Decoing, romancier et scénariste. Il évoque son dernier roman paru aux éditions Stock, Une Anglaise à bicyclette.
On parle un peu de la langue sioux, Didier Decoing.
Moi ?
Non, alors, vous connaissez un peu la langue
non,
des sioux ?
Non, je connais des mots.
Parce que la langue sioux, vous dites dans votre roman, j'en rappelle d'ailleurs le titre, Une Anglaise à bicyclette, c'est chez Stock. Quand Emily parle en langue sioux, Jason, donc notre photographe britannique, a le sentiment d'entendre autre chose que du langage humain. Ouais. Je vous cite, « Comme une rivière qui roule des cailloux tout ronds, tout chevelus d'herbe d'eau. »
Oui, j'ai entendu parler sioux. C'est beau. C'est vrai que c'est un côté rocailleux mouilleux, mouillé, c'est très difficile
c'est à exprimer. C'est liquide, c'est poétique,
oui,
ça coule
en même,
comme
en
ça.
Même temps, il y a des heurts, il y a des saccades, il y a un côté minéral. Ce sont des gens qui correspondent, dont la langue correspond au paysage. C'est-à-dire que ce sont des paysages de rivières, de torrents, et puis c'est aussi des paysages de terre, d'herbes mouillées. Mais ce qui est fascinant pour quelqu'un qui est écrivain, ce que j'ai la prétention d'être, c'est que les Sioux, mais tous les Indiens en général, tous les Amérindiens en général, n'ont pas d'écriture. Ce sont des nations qui n'ont pas un seul texte écrit. Tout se transmet par l'oralité.
C'est une tradition
orale. Et moi, qui travaille principalement avec l'écrit, je suis fasciné de voir comment des peuples entiers ont pu... uniquement avec la parole, sans jamais l'écrire. C'est fascinant. C'est comme si j'étais... ça me fait penser à une petite sirène d'Andersen qui a une queue pour nager dans l'eau, mais qui ne peut pas marcher sur la terre. Voyez, c'est cette espèce de... Tiens, il manque... Donc, c'est une autre forme d'exil, d'ailleurs.
Alors, il n'y a pas de R dans la langue Sioux. Et alors, il y a quelque chose, à mon avis, de très important à mentionner. Dans la culture et cette civilisation Sioux, c'est que le cercle est tout... Et tout est cercle. Or, si on prend la bicyclette, finalement, oui. La roue de la bicyclette, et puis le parcours d'Émilie, et ah oui, je ne vais pas raconter le dénouement, mais quelque part aussi, on peut dire qu'elle fait une sorte de cercle.
Mais vous avez parfaitement lu ce livre, parce que ça, ce n'est pas dit, il faut le deviner. Mais c'est vrai, c'est un livre circulaire, c'est un livre cerclé, c'est un livre en circonférence, oui. Alors, la première fois qu'Émilie, donc ex et ah oui, qu'il a appelé Émilie, mais c'est ce qui représente
la plus grande proximité phonétique,
voilà. Oui. Monte sur une bicyclette, elle pédale autour d'une table, elle-même qui était même une table ronde. On est vraiment dans le. J'étais très frappé de ça parce que nous avons, nous, je crois, en Occident, une vision très différente, c'est-à-dire que nous partons d'un point A pour aller vers un point Z, mais on revient pas au point A. On ne sait pas ce qui se passe après le point Z, mais on ne revient pas au point A. Alors que les Indiens, enfin les Amérindiens, ont cette espèce de sens du circulaire. C'est pas mal parce que c'est aussi la notion d'éternité qui est là.
Oui.
Rien ne se perd, rien ne se crée. Je me rappelle un film de Kubrick qui s'appelait 2001, Odyssée de l'espace. C'est vrai, à la fin, il y avait un bébé qui était dans une espèce de boule. Et puis il y avait un vieillard sur un... Et on se demandait ce que ça voulait dire. Et je pense que c'était ça déjà. C'est-à-dire que les extrêmes, non seulement se touchent, mais se réunissent pour former des cercles.
Parlons un peu du photographe Jason Flannery. Alors, il est veuf. Bon, il recueille Émilie avec beaucoup d'affection et d'amour. Alors, j'ai presque envie de ne pas raconter la suite parce que je voudrais laisser à nos auditrices et auditeurs le plaisir de suivre le destin, parce que j'ai l'impression qu'aussi cette petite fille, c'est un destin qu'elle va...
Oui, c'est un destin.
C'est un destin qu'elle va connaître.
C'est-à-dire que ce qu'on peut dire quand même, c'est passer du stade du monsieur qui ne connaît pas la petite fille merdeuse à l'adoption aimante et puis à la protection affectueuse qu'il va exercer sur elle comme un père sur un enfant. Et puis on va passer à l'amour vrai. J'ai été très frappé, j'ai adapté pour la télévision Les Misérables, et j'étais très frappé par l'attitude de Jean Valjean vis-à-vis de Cosette. Quand, à la fin du livre, quand Cosette épouse Marius, Valjean a une espèce de jalousie, mais monstrueuse, vis-à-vis de Marius. Pourquoi ? Parce qu'il est amoureux de Cosette, mais s'interdit d'avoir la moindre relation avec elle parce qu'il s'est positionné comme étant son père adoptif. Alors que, n'ayant aucun lien biologique avec elle, Il n'y aurait absolument pas d'inceste. Et j'ai été très très frappé par ça, que Hugo ne résout pas ce nœud-là. Il le pose, il nous le laisse supposer, mais lui n'apporte pas la situation. Et je me suis dit, Jason Flannery, il est dans la même situation. Il peut faire ce qu'il veut avec cette petite fille. Il peut l'épouser. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire dans le livre. Ils vont devenir mariés.
Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire. Vous avez vendu la mèche.
Il faut y arriver à ce mariage. Oui. Bon, ça ne va pas être commode. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que quelque part, il venge Jean Valjean. Enfin, c'est compliqué ce que je raconte. Mais
non, c'est intéressant.
C'est-à-dire que lui, il va au bout. Je peux toucher à cette jeune fille puisqu'elle ne m'est physiologiquement, biologiquement, elle ne m'est rien.
Il a peut-être moins de morale que Jean Valjean.
Il n'y a pas de morale, là. Non, Valjean, le problème de Valjean, c'est qu'il faut se rappeler que quand Hugo écrit Les Misérables, c'est au moment où il perd Léopoldine, sa fille. Et quand il apprend la mort de Léopoldine, il était en rendez-vous galant avec Juliette Drouet à Bordeaux ou tout, je ne sais plus où, enfin loin, et il se dit, si j'avais été près de ma fille, ce ne serait pas arrivé. Ce serait arrivé quand même, ce serait noyé quand même. Mais il va trimballer un énorme remords par rapport à elle. Et quand il écrit Les Misérables, c'est d'abord le portrait d'un... Avant de faire le portrait des Misérables, c'est le portrait d'un père. C'est le portrait d'un père à problème. Un père qui ne sait pas trop comment se comporter avec sa fille et qui trimballe comme ça des tas de remords. Et si vous déchiffrez Les Misérables avec ce code-là, c'est un livre fascinant, d'une modernité inouïe.
Mais votre photographe, quelque part, il épouse cette enfant adoptive un peu pour oublier sa femme Florence.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est un peu cathartique, quelque
oui,
part.
Oui, c'est totalement cathartique. Non, pour l'oublier et pour la compenser aussi. Ça s'est mal terminé, effectivement, avec Florence, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, et c'est un point très important, mais je ne peux pas m'étendre pendant 150 pages dessus, il ne lui a pas dit adieu. On est des millions à avoir ces remords vis-à-vis. Moi, ma maman, elle est partie, je venais de la quitter. Je suis allé dîner, 10 minutes après, elle s'était envolée. Et je ne lui ai même pas dit au revoir, parce que je pensais la revoir le lendemain matin. C'est un remords idiot, mais j'aurais rien empêché. Mais on a tous comme ça on est des millions à avoir ces remords-là. Et je pense que Jason Flannery l'a, parce qu'il l'adorait, sa femme.
Et en plus, il avait une manière de faire l'amour qui était particulièrement originale, on peut le dire.
Oui,
vous
bien
le
sûr.
Dites,
oui, oui, ben elle était escapologiste, c'est-à-dire que c'est comme Houdini, ce sont des femmes, ou des hommes, qui se font ligoter, enchaîner, enfermer dans des boîtes clouées, etc. Et 1, 2, 3, 4, ils en sortent. C'est truqué, bien entendu, mais voilà. Et quand ils faisaient l'amour, c'était des jeux de bondage, comme on dit, ils se ligotaient mutuellement. Et dans des positions qui devaient être très belles, c'était des jeux de domination, soumission, parfaitement amoureux et réglés, sans danger. Mais c'était quand même très intéressant, ça.
Il y a une image absolument extraordinaire, c'est celle des toiles d'araignées qui ont un rôle important, parce qu'elles sont des attrapeurs de rêves.
Oui. Les Amérindiens fabriquaient, j'en ai un d'ailleurs, un petit objet comme ça, je crois que la plupart des gens connaissent, ce sont des dream catchers, ça ressemble à des toiles d'araignée, on un petit peu plus primaire, et alors voilà, les rêves viennent se prendre dedans, les cauchemars ne passent pas, ça bloque les cauchemars, et les jolis rêves peuvent passer. Les Indiens croient ça très fort. Et quand on n'a pas de dreamcatcher, d'attrapeur de rêves sous la main, il faut laisser des toiles d'araignée dans sa maison parce qu'elles font office d'attrapeurs de rêves. C'est-à-dire que les cauchemars vont se coincer, s'engluer dans la toile d'araignée et les jolis rêves iront dans votre lit.
Je te quitte. Radion. Radion.
C'était il y a 20 ans déjà, et oui, Mylène Farmer et Je t'aime Mélancolie. Ce soir, le romanesque à l'état pur devant notre micro, puisque nous sommes en compagnie du romancier et scénariste Didier Decoing. Il y est question d'une Anglaise à bicyclette, le dernier roman de notre invité, membre de l'Académie Goncourt. Votre roman, Didier Decoing, évoque l'univers des fées que l'héroïne Émilie veut découvrir afin de savoir s'il existe réellement. Et nous sommes dubitatifs.
Vous êtes dubitatif, vous ne croyez pas aux fées?
Ben, je ne suis pas comme Conan Doyle, lui croyait aux fées.
Oui, en fait, ce que Émilie découvre, quand elle découvre cette histoire de fées, de petite fille, ce qui la renvoie à son enfance à elle, hein, qui croit aux fées, c'est que comme elle vient d'une culture où c'est l'oralité qui compte, elle décide qu'elle va rapporter cette histoire à son photographe de mari, à Jason Flannery, en cadeau, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elle, de l'avoir sauvée, etc. Donc elle s'empare de cette histoire de fée, qu'elle a l'intention de restituer telle qu'elle. Et puis le doute lui vient. Et ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est sa quête. Il faut bien redire qu'il s'agit de photographies prises par deux petites filles, que ces photographies sont sur des plaques en verre, qu'elles ont été montrées à des experts et que tout le monde a dit « ce sont des photos qui n'ont pas été truquées, il est impossible de les truquer ». Et Émilie a la conviction, pour des tas de raisons, parce qu'elle trouve des éléments, etc., un peu, que ce sont des trucages. Et elle va remonter le fleuve et elle va aller jusqu'à l'origine de ces photos et comprendre comment elles ont été faussées et se dire « est-ce que je le dis à Conan Doyle ou pas ?»
Alors il y a l'écrivain, le père de Sherlock Holmes apparaît dans le roman, et Conan Doyle, c'est vrai que c'est un auteur emblématique, hein, c'est l'auteur presque britannique par excellence.
Ah, tout à fait, et puis c'est surtout le créateur du personnage le plus pragmatique, le plus rationnel,
étonnamment.
C'est ça qui est étonnant. Mais pourquoi Conan Doyle se met à croire aux fées? C'est tout simplement parce qu'il a perdu son fils et d'autres proches, et que l'idée, que je le comprends, hein, que la chair de sa chair puisse être bouffée par des asticots dans un trou, ça va pas. Donc il pose la question à des pasteurs anglicans, dites-moi qu'il y a une chose après la mort, et les autres disent, Monsieur Doyle, c'est la foi, vous le dit. Oui, mais prouvez-le-moi. Mais on peut pas vous le prouver, Monsieur Doyle, c'est une question de foi. Donc ça lui convient pas. Et il est désespéré, donc il cherche désespérément quelque chose qui va le rassurer, le conforter. Et quand arrive cette histoire de fées, il se dit, si ces petites filles ont vu des fées, c'est qu'il y a un autre monde. C'est pas forcément le monde de Dieu dont me parle l'Église anglicane, etc. Mais c'est un autre monde. S'il y a un autre monde, mon fils est peut-être dans cet autre monde. Et cet homme, qui était donc rationnel et pragmatique, bascule complètement dans le spiritisme, mais pour se consoler. Et ce qui est très beau, c'est que les petites filles qui avaient truqué les photos, faut dire la vérité, elles avaient truqué les photos, à partir du moment où Doyle fait et cause pour elles et dit « mais si ces photos sont authentiques », elles n'osent pas avouer qu'elles ont triché. Elles n'oseront jamais le dire. Et elles sont mortes il n'y a pas très très longtemps. Et l'une d'elles, je crois qu'elles avaient 89 ou 90 ans, l'une d'elles, sur son lit de mort, on lui dit, écoutez, maintenant que vous allez paraître devant votre créateur, dites-nous la vérité. Ces photos que vous aviez faites avec votre cousine, les photos de fées, les 5 photos de fées, c'était du bidon, c'était du pipeau. Alors, vous voyez, imaginez une très très vieille femme à l'agonie. Hein. Alors elle dit, écoutez, la première des photos, mon Dieu, oui, on avait truqué, comme la deuxième. Puis je dois bien dire que la troisième aussi, elle était... Ah là là, ainsi que la quatrième. Puis elle marque un temps et elle dit, mais pas la cinquième. Et elle meurt. Et on en est resté là. Et il y a des tas de gens qui sont persuadés qu'il y a 4 photos truquées, mais que la cinquième... Donc il y a encore des gens qui se rassurent en pensant que les faits existent. Et je trouve ça adorable. Shit.
Après cette escale chez Mamie Yoko avec Rose Lawrence, retournons dans l'Angleterre victorienne du roman de notre invité. Sans plus tarder, remontez à bord de Wagon Livre en compagnie ce soir de Didier Decoin, auteur d'Une Anglaise à bicyclette, paru l'an dernier aux éditions Stock. Un entretien enregistré le mois dernier alors que Didier Decoin était invité à Dijon par le Club des écrivains de Bourgogne. Alors, ce qui est adorable aussi dans votre roman, Didier Decoin, c'est le thème des haleines. Parce que l'haleine d'Émilie sent la pomme ou le fruit exotique. Parfois, il y a des haleines de mélasse mélangée de foin coupé. Donc, il y a le souffle d'une jeune fille qui sent le coquelicot. Et puis, alors, l'haleine des fées sent le safran, de même que leur sueur et leur petit paix.
Oui, alors ça, j'ai trouvé ça... parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux fées. Et alors, elle consomme du safran. Mais c'est évident, c'est une denrée très chère, le safran. Donc, et puis c'est un pistil. Donc, c'est normal que voilà. Et je trouve que l'histoire que quand des fées font des petits pets, ça sent le safran, c'est trop mignon. Je veux pas tomber dans le bébéiformisme voir l'infantilisme, mais... Dès qu'on parle de l'Angleterre, on est bien obligé de faire référence à tout ce monde des nursery rhymes, de Peter Pan, de tous ces petits mondes. Les Anglais décryptent beaucoup le monde, notre monde solide et sérieux, avec les yeux de l'enfance. Je relisais récemment les discours de Churchill. Et je m'aperçois que dans les heures les plus graves qu'a traversé la Grande-Bretagne, la guerre notamment, il y avait chez Churchill un côté, il gardait une âme d'enfant.
Mais quand bien même il promettait de la
quand bien même il promettait la sauvation. Et je me demande si la force de ce pays, qui a quand même tenu tête à l'Allemagne nazie, si la force de ce pays n'est pas justement dans cette référence permanente à l'enfant, parce que l'enfant croit des choses que l'adulte ne veut pas croire, parce que l'adulte se dit c'est pas possible. L'enfant se dit c'est toujours possible. Et Churchill, c'est l'homme qui dit c'est toujours possible. Et c'est pour ça que j'ai cette admiration à la fois pour les Anglais et pour ces petits éléments qui touchent aux fées, qui touchent... Moi, Peter Pan est une histoire qui m'a fait rêver à un point... c'est une merveilleuse histoire. L'enfant qui ne veut pas grandir. Je crois qu'on devrait tous être des Peter Pan.
Alors, vous parlez de Churchill, c'est loin d'être un Peter Pan. On imagine aussi physiquement. L'odeur de cigare. Physiquement, hein, c'est clair.
No sport.
L'odeur de cigare et peut-être aussi de whisky. Il y a beaucoup d'odeurs aussi dans le roman. Ça, c'est dans votre
roman.
Oui,
mais vos auditeurs, qui sont aussi les miens en l'occurrence, pour l'instant, ne peuvent pas le voir. Mais j'ai un gros nez, comme on dit. Bon, il faut bien qu'il me serve à quelque chose. Et je suis, je suis très sensuel des odeurs. C'est quelque chose que je me sers beaucoup de mon nez. J'ai dû être chien. Autrefois. Ah. Si je suis réincarné, j'ai dû être chien avant. Ou chat, non, plutôt chien. Je peux suivre une. Mais il m'est arrivé j'ai des parfums que j'adore, qui me font presque venir des frissons. Et il m'est arrivé de suivre dans la rue, comme ça, des femmes qui se parfumaient. Un exemple, Youth Dew de d'Estée Lauder, c'est un parfum qui me fait grimper au rideau.
Mais par exemple, est-ce que vous êtes déjà rentré dans des pièces lambrissées qui sentaient l'encaustique et la souris?
Ah, tout à fait. L'odeur de la souris, c'est une odeur que je reconnaîtrais entre mille. Oui, mais écoutez, c'est pas du tout pour passer pour un mutant, mais je pense que j'ai une capacité d'odorat qui est très particulière. Et je retrouve des... Moi, c'est ça, ma petite Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'une odeur, tout d'un coup, je repère immédiatement, je me dis, ça, il y a 40 ans, j'ai senti ça à tel endroit... C'est très très important.
Alors, Didier Decoin, le temps tourne. Alors, il faut tout de même que vous expliquiez pour quelles raisons il est imprudent d'offrir une bicyclette à une femme. Ah, oui. C'est le docteur Lefferts, un ami de notre photographe, qui considère qu'il y a des liaisons dangereuses entre la cyclomanie et la sexualité féminine.
C'est que c'est vrai, ça. Je veux dire, j'ai lu des ouvrages d'hygiénistes, c'est comme ça qu'on appelait les médecins qui s'occupaient de ça à cette époque, qui prétendaient que les femmes, sans s'en rendre compte au départ, puis ensuite elles le faisaient parce qu'elles trouvaient ça agréable, se masturbaient par le simple fait qu'elles enfourchaient une bicyclette et que la pointe de la selle se redressait d'une certaine façon, et que le frottement des cuisses, etc., etc. Et alors, c'était extrêmement répréhensible pour une femme en Angleterre de faire de la bicyclette. En France, les gens se posaient d'autres questions, les hommes, les médecins. Comment une femme qui fait de la bicyclette doit-elle s'habiller ? Doit-elle porter des bloomers ? Doit-elle porter des pantalons ? Doit-elle porter des jupes spéciales ? Et vous voyez la différence de mentalité. Alors, les Anglais, d'un côté, il ne faut pas qu'une femme monte en vélo parce que c'est de la masturbation. Et de l'autre, les Français, comment est-ce qu'une femme sera plus belle sur un vélo ? C'est deux mentalités tout à fait différentes.
Alors, il faut reconnaître aussi que même les couturières qui s'adonnent au pédalage intensif sur leur machine à coudre...
Oui, on a fait des hygiénistes anglais, on fait des expériences comme ça, et voilà, je pense qu'ils avaient affaire à... Mais vous savez qu'à l'époque, quand une femme avait des mouvements d'humeur inconsidérés, on disait elle est hystérique, et les médecins avaient un système, ils la masturbaient physiquement pour atténuer comme ça son hypersensualité. C'est très extraordinaire. Et c'est pas vieux, ça date, c'est la guerre de 14. Alors, des filles, elles rentraient le soir, les vélocipédistes anglaises, elles rentraient le soir et disaient à leur mari, ah, chérie, ce soir, non, je peux pas, c'est une migraine. Alors, le mari se plaignait au médecin, mais ma femme a beaucoup de migraines en ce moment, les médecins, toujours, est-ce qu'elle fait de la bicyclette, votre femme? Oui, pourquoi? Cherchez pas, c'est ça. C'est pas du tout qu'elle file de voir conjugal à cause de la migraine, elle file de voir conjugal parce qu'elle vient déjà de s'envoyer en l'air sur la selle de son vélo.
Alors, ma foi, on retrouve ses craintes dans le roman.
Mais il est formidable, le photographe, parce qu'il laisse, et je ne sais pas s'il y croit d'ailleurs à ce truc-là, il laisse Émilie faire autant de vélo qu'elle veut. La bicyclette à l'époque, en plus, quand on pense c'était des machines extraordinairement lourdes, encombrantes, pas commodes. C'est formidable de voir une petite jeune femme toute fragile, comme ça, sur ces espèces de gros. C'était des percherons des vélos, si vous voulez.
Didier Decoing, je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir à bord du 57e numéro de Wagon Lit, je rappelle.
J'adore le titre de l'émission. Wagon Lit, ça, vous me comblez.
Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre roman, donc Une Anglaise à bicyclette aux éditions Stock, un formidable tremplin vers le romanesque à l'état pur, selon la quatrième de couverture, mais je confirme, on est dans le romanesque à l'état pur, et un roman à déconseiller aux bitro-cosophobes. Bonsoir Didier Decoing.
Bonsoir à vous.
Avant de nous séparer et de vous donner le thème de notre prochain rendez-vous, voici quelques informations. Et il vient de nous rejoindre pour nous accompagner en cette fin d'émission. Bonsoir Claude.
Bonsoir à tous, bonsoir Yannick. Peut-être un des premiers salons du livre de l'année, le salon du livre de Valence.
Oui, effectivement, le 6e salon du livre de Valence se tiendra dimanche prochain, 5 février, de 9h à 17h à la salle des fêtes de Valence. Valence, c'est ce village à la sortie d'Auxerre en direction de Courson-les-Carrières, hein, route de Clamecy. Alors de nombreux auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Barbara Moreau, Sylvain Luinati, qui a reçu le Grand Prix Festilivre Bourgogne 2010, avec ses historiettes des granges Raffou. Mais on trouvera également Johanna Emmans, Nicole Dubus, auteur et éditrice, Eva Lard, Marlise Luinati, D.L. Scott, Carole Borda, la jeune Camille Paquin. C'est donc le 6e salon du livre de Valence, dimanche 5 février, de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Valence.
Barbara Moreau est donc l'invitée d'honneur du Salon du Livre de Valence.
Oui, Barbara Moreau, alias Gadine, est l'invitée d'honneur du Salon du Livre de Valence. Et elle donnera son spectacle, C'est moi Gadine, un spectacle où elle est seule en scène et elle évoque la mémoire de son grand-père, Nivernais, hein, le pépé de Couloudre. Barbara Moreau est accompagnée à l'accordéon par Frédéric Gâteau et... Le concert, le spectacle est en ouverture donc du Salon du Livre de Valence, mais le one-man show de Barbara Moreau se tiendra le samedi 4 février à la salle des fêtes de Valence à partir de 17h. L'entrée est libre, mais prévoyez quand même un billet ou une pièce à déposer dans le chapeau qui circulera auprès de vous à l'issue du spectacle.
Un conseil de lecture pour agrémenter les soirées d'hiver au coin de la cheminée.
Oui, je vous suggère de vous plonger dans Alaïs, la délivreuse de vie aux éditions Pierre-Philippe. C'est un roman où le surnaturel tient une place essentielle puisque Alaïs, l'héroïne, dispose d'une force mentale exceptionnelle. Elle est une délivreuse de vie et elle est celle qui, par un mot, un souffle, un acte, peut changer notre destin. C'est un roman où s'enchevêtrent tous les genres, policiers, sentimentaux, spirituels et fiction. Et l'auteur, qui s'appelle donc Jenny Lafitte, a grandi à Auxerre et après une carrière de danseuse étoile, eh bien, elle se consacre désormais à l'écriture. Alaïs est son premier roman et nous aurons vraisemblablement l'occasion de la recevoir prochainement à bord de notre wagon livre.
Et qui sera l'invité de Wagon Livre la semaine prochaine sur Radion?
Alors mercredi 8 février à 21h, je vous proposerai un entretien avec Julien Campredon, jeune auteur qui écrit essentiellement des nouvelles. Alors nous l'avons rencontré lors de son passage à Auxerre, à la librairie Oblique, le 21 janvier dernier, soirée au cours de laquelle il a proposé des lectures et il a rencontré donc ses lecteurs. Alors ce jeune auteur, Julien Campredon, a 34 ans et il évoquera son dernier recueil de nouvelles en notre compagnie. Recueil de nouvelles qui a pour titre « L'attaque des dauphins tueurs » et c'est paru l'an dernier aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Des histoires baroques, loufoques et totalement débridées. C'est à découvrir la semaine prochaine à bord de notre wagon livre. Je mentionne également que Julien Campredon est l'auteur, toujours aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, d'un autre recueil de nouvelles qui s'intitule, attention, Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Et il y a tout de même à l'intérieur de ce recueil des nouvelles au titre absolument incroyable. Il y a bien sûr donc Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, la branleuse espagnole, le lièvre, l'olivier et le représentant en rond-point. Autre titre de nouvelles, Jean-François Sérius ne répond plus, les secrets de ma cuisine ou alors heureux comme un samoyède, c'est à découvrir donc les recueils de nouvelles de Julien Campredon qui sera devant notre micro mercredi prochain à partir de 21h, toujours sur Radion à bord de Wagon Livre.
C'est donc mercredi prochain, 8 février, à partir de 21h sur Radion ou en direct sur Internet, sur le www.radion.fr.
Effectivement, c'est important de rappeler que si vous ne nous recevez pas sur un poste ou sur votre transistor, vous pouvez, si vous êtes moderne et équipé d'un ordinateur, nous écouter en direct, comme l'a dit Claude, donc sur le site internet de Radion. Et je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook. Il y a une page Facebook de l'émission Wagon Livre, c'est Wagon Livre Yannick Petit. Et puis, n'oubliez pas aussi le blog qui est régulièrement mis à jour et qui décline très régulièrement le nom des invités qui se succèdent dans Wagon Livre. À partir d'un moteur de recherche, vous tapez blog Wagon Livre et vous allez nous trouver très facilement. Et puis, n'oubliez pas, bien évidemment, si vous avez raté des émissions, vous les retrouvez aisément, disponibles en podcast ou à l'écoute sur le site de Radion. Merci Claude d'avoir été en notre compagnie et bonne soirée.
Bonsoir à tous nos auditeurs et bonsoir à toi.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être restés fidèles. Il est bientôt 22h. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à mercredi prochain sur le 90.5, la fréquence de votre radio locale.